et tout.
Et regarder chaque texte pour voir s'il y a quand même certains thèmes qui réapparaissent régulièrement. Je pourrais peut-être augmenter vos rapports qui vont suivre maintenant dans quelques instants en soulignant quelques textes sur lesquels vous n'avez pas travaillé, surtout le premier texte, Exode 15. Le chanteur principal, c'est Moïse, avec les fils d'Israël. L'auditoire principal, c'est l'Éternel lui-même. Et ce texte est essentiellement une louange à Dieu. Mais je vois aussi, dans chapitre 15, verset 14, qui semble se référer aux enfants de ce peuple. Donc, chaque fois qu'il y a un chant qui est chanté par un leader en Israël, n'oublions pas que le peuple d'Israël, qui est un peuple, le peuple de l'Alliance, c'est pas l'Église, c'est pas la même chose. Parce qu'on peut devenir juif et être sous l'Alliance avec Abraham, tout en n'étant pas encore converti. En tant que petit enfant, on n'est pas converti parce qu'on est juif. En tant qu'adulte, on n'est pas converti parce qu'on est juif. Il faut être fils d'Abraham dans le sens généalogique, mais aussi dans le sens spirituel, à savoir suivre la foi d'Abraham. Donc chaque fois que nous voyons dans des textes historiques et dans des psaumes des chansons qui sont consacrées à la louange de Dieu, le peuple d'Israël sera forcément toujours un peuple un peu mixte. Il y aura des gens qui participeront aux fêtes juives, tout en n'étant pas encore convertis. Hein, ils font avec, ils jouent le jeu. Et donc, le chant encourage les gens mixtes à réfléchir et dire, suis-je vraiment... Est-ce que je fais partie de la famille de Dieu ou est-ce que je suis seulement un juif? On va sauter les textes que j'aimerais passer un peu de temps dessus. Déborah et Barak en Juges 5, c'est aussi un chant, un duo, hein, une femme, un homme, une femme costaud. Et puis,
les petits baraques, les soldats qui chantent ténor, voix de tête,
je ne sais pas. C'est un peu comique. On juge, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis, on voit que les femmes, puisque les hommes ne sont vraiment pas à la hauteur. Hein. Lisez le livre de Juges à la lumière du changement, du renversement dans la position des genres. Et vous voyez que le Seigneur ne voit pas d'homme, donc il demande, il y a une femme ici dans la salle qui peut faire quelque chose pour moi. Et alors, c'est Déborah qui chante avec Barak, qui la soutient un peu. Et là aussi, il y a une partie du chant qui est comment on peut dire, c'est presque une imprécation contre les ennemis de l'Éternel, qui auront peut-être entendu ce chant de Déborah et de Barak. Enfin, on passe à 1 Chronique 16. On n'aura pas le temps de lire tous ces textes. C'est évident. Donc, nous aimerions écouter le fruit du travail de chaque groupe. 1 Chronique 16. Dites-nous, le groupe qui a parlé de ça. Oui, allez-y. Donc, qui sont les chanteurs?
David, Asaf et les Lévites qui sont instaurés pour l'adoration.
Oui, surtout Asaf et ses cousins, oui. Donc Asaf qui fait partie de quelle tribu? Les Lévites. Donc les Lévites qui soutiennent les sacrificateurs dans la louange juive. Les Lévites sont divisés en petits groupes. Il y a des choristes, il y a des instrumentalistes, il y a des compositeurs, il y a aussi des Lévites qui portent les meubles du tabernacle et plus tard qui servent dans le temple. D'accord. Et qui est l'auditoire principal?
Le peuple d'Israël, rassemblé. En fait, il est rassemblé pour le retour de l'arche à Jérusalem.
D'accord. Mais qui écoute cette musique tout d'abord? Dieu, c'est toujours Dieu. Parce que c'est, chaque fois qu'il y a un chant qui s'adresse à Dieu, c'est lui qui écoute d'abord. Hein. Donc ça, c'est un élément absolument clé. Parce qu'on l'oublie souvent quand on assiste au culte. On chante et on oublie que c'est le Seigneur qui écoute. Hein? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se redresseraient dans nos assemblées si nous venions vraiment avec cette idée en tête, c'est Dieu qui nous écoute. On n'est pas là pour dire comment ça a été la semaine. Et, le foot, tu as vu le match hier, et puis qu'est-ce que tu penses de la politique et les investissements, etc. Mais notre louange s'adresse à Dieu, comme dans ce cas-ci. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un élément de louange, de témoignage?
À deux endroits, en fait. Donc, il y a un psaume, il y a tout un psaume qui est cité. Donc, du verset 8 à 11, c'est vraiment un appel à la louange. Et du verset 23 à 36, c'est aussi un autre appel à la louange. Et au milieu de ça, en fait, c'est un témoignage où là, on récite les hauts faits de Dieu, comment il a guidé le peuple d'Israël. Donc ça, c'est du verset 12 au verset 22.
D'accord.
Et donc, ce qu'on a vu comme autre but aussi, c'était aussi prophétique, parce qu'à certains endroits, on cite texto des paroles que Dieu a dites au peuple d'Israël. Donc, une parole de Dieu.
D'accord.
Et donc, un autre but, c'était fêter le retour de l'Arche à Jérusalem.
Tout à fait. Ok, très bien.
Et on a vu aussi qu'il y avait une invitation à évangéliser dans le verset 23. C'était proclamé, je ne sais plus comment c'est.
Chanter oui. À l'Éternel, c'est des impératifs racontés parmi les nations.
Voilà, un élément tout à fait clé. Hein. Verset 8 aussi. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et verset 23, Chronique 16, 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncer de jour en jour son salut. Donc, c'est le peuple d'Israël qui doit participer. Et puis, ceci s'accorde tout à fait avec la mission que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël. Hein. Dieu a choisi Abraham pour que toutes les nations soient bénies dans sa descendance. Hein. Donc, le peuple de Dieu qui est envoyé en mission. Très bien. Ok. Vous aviez aussi un texte dans Néhémie 12.
Au niveau du style de musique, c'était allégresse, triomphale, et c'était orchestral aussi. Hein, c'est soutenu.
Merci. Merci d'avoir ajouté ça. Donc, dans la dernière colonne sur le ton, dans 1 Chronique 16. Donc, une musique de célébration, une musique majestueuse. Ça a dû être quelque chose de joyeuse. Oui. Donc. Est-ce qu'il y avait des accords mineurs dans la musique?
Non,
pas de mineurs. Hein. Mais notre conception de majeur-mineur, est-ce que ça faisait partie de la musique juive à cette époque? Parce que vous voyez, notre conception de mineur-majeur, c'est assez occidental. Qui a fait de la ethnomusicologie ici? Isabelle? Non? L'année prochaine, Christy va commencer.
Quand on entend la musique juive,
c'est... Oui, mais attention, hein, mais bon, ça c'est la musique à l'heure actuelle.
Demain, non, ouais.
Et j'entends ça tout le temps, oui, mais la musique juive, c'est comme ça. Mais c'est la musique issue d'une tradition rabbinique qui est moderne. Donc, il faut faire très attention. Nous allons regarder cela. Bon, c'est pour plus tard. Néhémie 12. Allez-y.
Alors de nouveau, on retrouve des musiciens, des chantres parmi les Lévites. L'auditoire, c'est le peuple d'Israël, parce que ça se passe à Jérusalem. Le but, c'est la louange de Dieu, au verset 46, on voit ça. En fait, c'est parce que c'est l'inauguration de la muraille de Jérusalem après le retour de l'exil, en fait. Le témoignage. On se rend compte que ça porte témoignage parce que le chant est entendu hors des murailles de Jérusalem. On l'entend de loin.
Tout à fait, très bien. Verset 43.
Donc le but autre, c'était l'inauguration de la muraille. Donc l'auditoire, j'ai oublié Dieu, en priorité, Dieu, et puis le peuple d'Israël.
Alors,
D'accord, les auditoires, donc, c'est Dieu lui-même et puis toute l'assemblée.
Et de nouveau, c'est un chant de fête, de joie, et c'est triomphal.
Mm-hmm. On avoue qu'il y a deux chœurs de Lévite.
Ah, voilà.
Donc, antiphonale, hein. La musique antiphonale. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ça dans nos églises de temps en temps? On divise l'assemblée en deux et puis on se chante pour varier un peu.
On fait des canons.
Des canons, oui. Mais on peut faire ça aussi avec des hymnes. Il y a des hymnes qui se coupent très bien en deux. Et puis on peut diviser pour varier un peu, pour que les gens prêtent attention, parce que sinon on chante machinalement dans l'église.
Et du coup, on se demandait, il mentionnait descendant d'Azaph et de David. Donc, est-ce que c'est bien le même Azaph évoqué dans Chronique? Il est parlé des fils d'Azaph.
Oui. Oui, c'est les descendants des Lévites. Oui.
Donc, c'était intéressant de voir le parallèle entre les deux passages à des siècles de distance, alors que ça se passe vraiment de la même manière, la louange.
Tout à fait. Tout à fait. Donc.
Et on dit qu'ils ont gardé les instruments de David jusqu'à l'époque.
Oui.
Ils se servent des instruments de l'époque de David.
Oui, des deux instruments. D'ailleurs, on fait dans les salles de concert, vous écoutez la musique baroque, la musique du Moyen-Âge sur les instruments de l'époque. Mm-hmm. Hein, ça donne un autre son. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a quelque chose, hein, quand on entend ça, on le fait avec plaisir. Parce que les instruments modernes, enfin, je ne suis pas... J'ai fait un peu de violon quand j'étais tout petit et je sais quel son ça donne, mais le violon Stradivarius et puis des trucs vraiment du Moyen-Âge, c'est plus aigu, je sais pas, les cordes sont autres, donc ça donne une autre ambiance. Je pense que les instruments sont disparus. Hein. Lorsque les Babyloniens ont détruit le temple, je suppose que ces instruments-là, un certain nombre de ces instruments sont partis. Avec le retour, certains ont été conservés ici, mais en 70 après Christ, je suppose que tout cela fut détruit. Mais il y a peut-être des surprises quelque part en dessous du mont du temple. Mais c'est un autre sujet. Bon. Merci. Deuxième groupe, le psaume 40. Le psaume 40.
C'est un psaume de David.
Oui. Donc, quand on dit que c'est un psaume de David, ça veut dire que le premier chanteur...
Je pense qu'il a chanté certainement premièrement.
Ouais. Probablement.
Ouais. Et après, on voit aussi écrit au chef des chants, donc il était peut-être destiné aussi à... Le partage pour celui qui était responsable du chant. Quoi. Mm-hmm. L'auditoire principal qu'on a mis, c'est Dieu. Mm-hmm. Et puis aussi, pense aussi quelques. On ne s'est pas dit quelque part qu'il y avait le culte, mais au début, il dit j'avais mis. L'éternel mon espérance, donc on a l'impression qu'il raconte cela à quelqu'un, hein, ouais. qu'il le dit à quelqu'un, donc il y a probablement au moins une personne à laquelle il chantait cela. Mm-hmm. Donc c'est de la louange, le but était de la louange à Dieu. Verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, et beaucoup l'ont vu, beaucoup ont eu la crainte. Donc il y a cette louange qu'on voit aussi dans d'autres versets où il s'adresse directement à Dieu en disant « Tu as multiplié, par exemple verset 6, hein, « Tu as multiplié éternel mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. » Donc il a écrit dans le but de louer Dieu pour ce qu'il a fait. Et puis aussi, oui.
J'ai dit surtout les versets 6 à 12 pour la louange de Dieu.
Et puis aussi, ça a un but, une vocation, enfin de témoignage, parce que, on a mis ça dans verset 1 jusqu'au verset 8 aussi, un peu. Il dit, on l'a dit tout à l'heure, hein, j'avais mis en l'éternel mon espérance, donc il raconte ce que Dieu a fait, c'est Dieu qui a mis, il m'a retiré de la fosse, verset 3. Il a mis dans ma bouche, donc il y a ici un témoignage, quelque chose qu'il raconte. Et puis aussi, on a mis que c'est une prière, dans le but, on a qu'il y avait un autre but qui était peut-être la prière, parce que vers les versets 14, il dit veuille me délivrer, ô Éternel. Donc ça change, il y a un ton qui change à partir du verset 13, il pense à ses maux, à son iniquité. Donc il ne peut supporter la vue, et puis il y a une prière de délivrance. Il délivre-moi, ô Éternel, veuille me délivrer. Mm-hmm. Donc ici, il y a une prière qui est qui là. Le ton, alors on a mis que la musique peut-être pouvait changer, parce qu'on passe de la louange au témoignage, et puis à la supplication. Mm-hmm. Donc il pouvait avoir un aspect joyeux. Mais quelque chose qui se termine, par exemple au verset 14, on a lu ici avec une musique plus peut-être plus mineure, hein, de notre époque.
Plus contemplative.
Oui.
Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a mis.
Tout le monde reconnaît ce phénomène que, puisque la musique a son langage à elle, lorsque le texte change, il faut que la mélodie change, puisque c'est un support. Et ce fait-là, que tout le monde reconnaît, viscéralement, c'est tellement logique qu'on n'a même pas besoin de le dire. Et pourtant, on l'oublie parfois, parce que dans nos cantiques, dans les choses qui sont faites à l'heure actuelle, parfois on mélange un texte qui ne va pas du tout avec la musique qui soutient. Donc il faut réfléchir là-dessus. Ce serait bien si dans un deuxième temps, peut-être l'année prochaine, que nous organisions des conférences sur la composition et que chacun puisse prendre un texte, un texte court, un texte où la musique serait plutôt uniforme, et puis un texte comme le psaume 40, où la musique changerait, de voir quel serait le résultat. Et ça, c'est pour les avancées. Hein.
Oui.
Ce serait intéressant une fois de faire ça. Pour nous, on se borne quand même à l'étude de la question d'évangélisation. Est-ce que vous voyez ici dans ce psaume un côté témoignage envers autrui? Est-ce que ce psaume sert à être un outil d'évangélisation? Selon quel verset? Le verset 4.
Ça inspire la crainte de Dieu, le respect.
Voilà.
Et ils se sont confiés.
Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte quand ils ont entendu ma louange à Dieu, hein, ce cantique nouveau. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Donc, ça c'est... une chose intéressante, le verset 11. Je publie ta vérité, ton salut, je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. C'est le Seigneur qui met ce nouveau cantique à la bouche, ce n'est pas le commerce. Parce que parfois on cite ce verset en disant, il nous faut un cantique nouveau. Mais est-ce que le Seigneur qui met ce nouveau cantique dans notre cœur, ou c'est plutôt ce qui est commercialisé? On entend un style, alors on veut vendre les CD, alors on copie le style qui, disons, fait rage. Et est-ce que la musique, le texte et la musique qui soutient le texte fait que les gens ont une crainte de Dieu? Ou est-ce qu'on s'amuse seulement? Je pense qu'il y a beaucoup de musique qui passe à côté de cet aspect de dire « Waouh, Dieu est grand et il est mon juge ». À moins de me fier à lui. Ok, des pistes de réflexion. Le psaume 66.
Le psaume 66. Alors, chanteur ou instrumentiste, on a eu du mal. Parce que bon, dans le psaume directement, c'est pas, on n'a pas trouvé.
Exact, point d'interrogation.
Point d'interrogation, ici. Après. À qui il s'adresse, donc on a vu au départ, il s'adresse un peu aux habitants de la terre.
Ouais.
Il dit, poussez vers Dieu, il parle des habitants de la terre. Et puis dans le milieu du psaume, parfois il y a une il s'adresse directement à Dieu, par exemple au verset 10, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amené, verset 12, tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Donc il y a aussi, il est adressé aussi à Dieu, mais à plusieurs endroits on voit qu'il est adressé vraiment aux gens pour les aider à tourner leur regard vers, même les inciter à la louange. Donc, voilà pour l'auditoire. Et puis le but, bien oui, la louange à Dieu. En tout cas, on a vu qu'il y avait l'invitation, ça vient peut-être d'un autre, je ne sais pas, invitation à la louange. Verset 3, par exemple, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, des ennemis. Tes ennemis te flattent. Et puis en même temps, il y a le témoignage, un but de témoigner. Ici, versets 17 à 19, par exemple, il dit « J'ai crié à lui ». Donc ça sous-entend qu'il le dit à qu'il y a d'autres personnes qui écoutent cela. Et la louange a été sous ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à ma prière. Donc c'est vraiment un témoignage que l'on adresse aux autres à l'égard de Dieu, de sa grandeur, du fait qu'il écoute la prière et qu'il exauce la prière. Il y a tout témoignage qui est porté à son honneur. Qu'est-ce qu'on a pu dire d'autre, peut-être sur le...
Outre une invitation à la louange.
Et puis sinon, la musique, bien, elle pourrait être majestueuse au départ. Hein. C'est vraiment pousser des cris de joie, vous tous habitants de la terre. C'est quelque chose de joyeux. Et puis, bon, si on prend la partie qui est liée au témoignage, verset 17, 18, 19, ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus calme, sans être triste, mais qui est sur un ton beaucoup plus de paix, de confiance, sentiment de plénitude, de repos.
D'accord. Il y a certainement un élément d'appel aux nations. Parce qu'il dit, comme tu as souligné au verset premier, « Vous tous, habitants de la terre, poussez vers Dieu des cris de joie. » Et puis il répète ce thème. Dans les versets qui suivent, chantez, il s'adresse toujours aux habitants, à tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore. Donc ce psaume est une invitation, même aux nations, à ceux qui détestent Israël, ceux qui sont amis avec Israël, à adorer le Dieu d'Israël. Très bien, il faut avancer. Le troisième groupe, le psaume 89, donc un psaume qui parle de l'alliance davidique, c'est un long psaume, et ce groupe-là a dû prendre un peu de temps pour lire le psaume en entier. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce psaume 89? D'abord, le chanteur.
Ethan,
oui, qui était de quelle tribu?
Je pense qu'il est lévite, peut-être fils de Corée.
Oui, il est fils de Corée, oui.
Et c'est vocal, je pense, qu'il n'y a pas d'instrument. Mais ce qu'on a trouvé, je pense que c'est ça. L'auditoire, je pense que c'est Dieu, l'oublié. On a parlé des générations de chrétiens ou de ceux qui craignent Dieu, la postérité, verset 5. Bon, c'est un peu compliqué avec les différentes traductions. Il y avait peut-être la version anglaise, il y avait déjà le premier verset, ça parlait des générations.
Lisons ensemble les versets 4 et 5 ensemble. Hein. En français, tu pourrais nous lire ces deux versets?
J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité.
De qui s'agit-il?
La postérité de David.
Qui est qui? C'est qui la postérité de David? Dont le trône sera établi à perpétuité. C'est Jésus-Christ, c'est le Messie. Hein? Donc le descendant, la postérité de David, et le Messie de David, le Messie davidique, avec qui cette alliance davidique est traitée, pour que son trône, le trône du Messie, est établi à jamais. Donc c'est un psaume qui tourne autour du Messie. Autre chose ? Oui.
De manière générale.
Assez générale, oui.
Voilà, tout le psaume, on a noté le verset 6, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de témoignages ici, de la création et du créateur. Le créateur, ce sont les versets 7 et 8. Et puis à partir du verset, il y a beaucoup de choses sur la création. Et puis on a noté dans autres changements d'atmosphère, de ton à partir du verset 39. Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton nom. Une sorte de déception, quelque chose de très triste. Et puis on a noté aussi la supplication de la prière à partir du verset 48 jusqu'à 52. Rappelle-toi, souviens-toi, et le ton de la musique aussi pourrait changer en fonction de tous ces éléments.
D'accord. Ok, très bien. Il faut respecter notre horaire. Nous continuerons plus tard, et ce plus tard, c'est ce soir. Donc n'oubliez pas surtout ce que a fait votre groupe. Nous y reviendrons parce que ce que nous faisons maintenant, c'est quand même le fondement de tout ce qu'on va dire. L'histoire d'église, c'est accessoire. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est plus important. Si vous avez le temps cet après-midi, vous n'avez rien à faire, il va peut-être pleuvoir, vous ne pouvez pas aller vous promener. Prenez un peu de temps pour regarder d'autres textes, pour voir s'il y a quand même des thèmes qui reviennent tout le temps. Puis on terminera notre travail de groupe ce soir avec quelques commentaires sur les synthèses théologiques. Voilà, merci de faire le travail. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant si vous faites un peu de recherche que si vous m'écoutez, j'ai tout digéré. C'est bien s'il y a un cuisinier en bas. Mais c'est à vous quand même de digérer. Hein.
Merci beaucoup.